L'actualité des Alpes du Sud, on vous l'apprenait dès hier après-midi. Le docteur Raouf Hamami est suspendu de ses fonctions au sein de l'hôpital de Gap.
Une suspension à titre conservatoire pendant 5 mois. Après une mission de conciliation menée la semaine dernière, les conclusions étaient accablantes à l'encontre de ce chirurgien, clairement identifié comme étant la cause de la crise traversée par le Chicaz. Depuis sa réintégration en mars dernier, de multiples spécialistes et soignants avaient soit démissionné, soit s'étaient mis en arrêt maladie.
Politique, il a choisi son temps pour l'annoncer. Renaud Muselier est candidat aux élections régionales de juin prochain.
Mis à la tête de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2017 après la démission de Christian Estrosi, il s'y verrait bien rester pour un nouveau mandat. Il veut rassembler le plus largement possible pour faire barrage au Rassemblement national des régionales qui auront lieu en même temps que les départementales les 20 et 27 juin prochains. Et bien lui aussi brigue un nouveau mandat, c'est Jean-Marie Bernard, le président du Conseil des Hautes-Alpes.
Mais c'est un conflit naissant dans les Alpes du Sud, un bailleur social change toutes ses portes d'entrée, condamnant les personnes handicapées ou âgées à rester cloîtrées chez elles.
Car ces portes sont trop lourdes et pour sortir, il faut soit emprunter le garage, soit le local à poubelle ou soit la cave du bricolage pour l'APF dans les Alpes du Sud qui interpelle les représentants de l'État.
Dans ce journal, les pilotes de demain formés sur avion électrique.
Et ça se passe à Château-Arnoux-Saint-Auban. 6 pilotes cadets d'Air France sont en formation. Ils ont l'opportunité de s'entraîner à bord du Vélis 128, le premier avion du monde certifié à propulsion à l'énergie électrique. Météo.
Eh bien, frais, nuageux et quelques averses. On ne change pas une équipe qui gagne. Les températures qui fléchissent encore un peu. Les maxis sur les Hautes-Alpes de 8 à 16 degrés. Et ça ira de 10 à 16 sur les Alpes de Haute-Provence. Cela marquera-t-il le retour au calme au sein de l'hôpital de Gap? C'est une information qu'Alpe 1 vous dévoilait dès hier après-midi. Le docteur Raouf Hamami a été suspendu de ses fonctions de praticien pendant 5 mois.
Le retour de ce chirurgien au sein de l'hôpital gapensin en mars dernier avait provoqué, souvenez-vous, une crise sans précédent. Le docteur Raouf Hamami, c'est lui qui avait dénoncé la méthode de cimentoplastie discale pratiquée par son confrère, le docteur Gilles Norotte. Suspendu pendant 2 ans, compte tenu du climat de peur qu'il faisait régner, les autorités de santé avaient été contraintes de le réintégrer dans le service le mois dernier après qu'il ait obtenu le titre de lanceur d'alerte par la défenseure des droits. Une réintégration qui a rapidement fait vaciller tout un hôpital. Démission de spécialistes à la chaîne, arrêt maladie de dizaines de soignants, on craignait pour la continuité des soins. Le collectif pour la survie du Chicaz avait appelé à la destitution rapide de ce praticien, mettant en avant la pression et le climat délétère qu'il faisait régner au sein des services. Jeudi et vendredi dernier, deux médiateurs missionnés par le Centre National de Gestion se sont rendus au sein de l'hôpital de Gap. Médecins et personnel non médical ont été écoutés. Et finalement, les conclusions seraient accablantes à l'encontre du docteur Raouf Hamami. Les médiateurs ont mis en avant l'impossibilité de trouver une voie de conciliation et la dégradation rapide de la situation au sein de l'établissement hospitalier ainsi que la souffrance des équipes. Le retour du praticien a été clairement identifié par les personnels comme la principale cause de cette situation. L'agence régionale s'est basée sur ses conclusions. L'agence régionale de santé s'est basée sur ses conclusions pour trancher et suspendre à titre conservatoire le docteur Hamami pendant toute cette période. Il continuera de percevoir ses émoluments.
Le bracelet anti-rapprochement déployé pour protéger une femme victime de violences conjugales à Manosque.
Cette jeune femme de 23 ans était déjà venue déposer plainte le 16 avril dernier pour des violences exercées par son conjoint. Ce sont 8 jours d'ITT qui lui ont été délivrés. Mais 10 jours après, ce lundi donc, elle s'est à nouveau présentée devant les fonctionnaires de police manosquins, expliquant avoir reçu des menaces de mort. L'homme de 22 ans a été interpellé dans la foulée, il a reconnu les faits et a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Et c'est donc un bracelet anti-rapprochement qui a été décidé pour maintenir la sécurité de la victime.
Dans le reste de l'actualité, le procès de Merlin Longuet aura-t-il lieu?
Une question qui reste en suspens. Alors que ce manosquin de 26 ans a été jugé hier devant le tribunal de Digne-les-Bains pour 16 infractions au port du masque et 12 participations à des rassemblements illégaux et non déclarés dont il était l'instigateur. C'est lui qui était notamment à l'origine du Café des Libertés, ces rassemblements contre la gestion de la crise sanitaire qui avait lieu de manière illégale chaque lundi à Fort-Calquier. Sauf que son avocat, Maître Olivier Lantelme, a mis en avant des poursuites anticonstitutionnelles. Le procès a donc été gelé dans l'attente de la décision de la Cour de cassation de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Écoutez Maître Olivier Lantelme.
C'est à ce stade une victoire que de faire juger qu'un texte fondement de poursuite et peut-être, comme on le soutient, inconstitutionnel et qu'à partir de là, il ne peut pas servir de base à faire condamner un homme. Seul le législateur peut définir ce qu'est un délit dans tous ses éléments caractéristiques et constitutifs. Or, le législateur a délégué son pouvoir à l'autorité administrative. On a préféré, pour dire les choses simplement, le préfet aux députés, l'arrêté préfectoral à la loi, et ça vient violer l'un des grands principes constitutionnels.
Et vous les entendez à l'arrière, ils étaient une centaine de personnes à avoir fait le déplacement sur le parvis du tribunal de Digne-les-Bains pour soutenir Merlin Longuet. Une véritable victoire pour eux qui ont applaudi la décision du tribunal en clamant « liberté, confiance à la justice de notre pays ». Autoproclamé dernier bastion des irréductibles joyeux, les membres du Café des Libertés ont pu profiter de ce débat public pour devenir le symbole d'une résistance à ce qu'ils appellent être l'autoritarisme malhonnête du gouvernement. Merlin Longuet en est devenu hier le porte-drapeau.
Ça fait 3 mois qu'on soutient les uns les autres et encore une fois, on est là pour le 13e rassemblement, pour soutenir et parce qu'on c'est un combat qu'on mène, c'est par le débat et c'est un débat qui était bouché. Donc là, on est content d'arriver aujourd'hui au tribunal. J'ai confiance en la justice là qui va me juger et j'espère qu'ils sauront voir la détresse dans laquelle on est poussé nous les gens du peuple. C'est un système qui peut pas fonctionner et j'en suis la preuve. J'ai poussé ce système à arriver jusqu'au procès et tout ça parce que je refuser de faire quelque chose qui, je considère, porte atteinte à mon intégrité. Et j'exige que mes droits fondamentaux soient respectés.
Un dossier réalisé par Michel Bonnefoy. Notez que si la Cour de cassation ne saisit pas le Conseil constitutionnel, le procès aura bel et bien lieu. La date a été fixée au 14 décembre prochain.
En bref, Cyrielle, le chômage progresse.
Les chiffres du chômage pour le premier trimestre de cette année ont été dévoilés. Sur le département des Alpes-de-Haute-Provence, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, augmente de près de 3% sur un trimestre et de 7% sur un an. On compte 10 350 chômeurs. Sur les Hautes-Alpes, on dénombre 9 030 demandeurs d'emploi, un nombre qui progresse de 16% sur 3 mois et encore plus sur un an avec une hausse de près de 29%. Et concernant la région PACA, le nombre de chômeurs augmente très légèrement, 0,6% sur le trimestre, 6,8% sur un an.
Politique, il a choisi son tempo pour dévoiler sa candidature.
Interrogé à de multiples reprises sur ce sujet, c'est finalement sur les réseaux sociaux que Renaud Muselier déclare être candidat aux élections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Arrivé sur le fauteuil de président de l'hémicycle en 2017 après la démission de Christian Estrosi de cette fonction, le Marseillais s'y verrait bien rester. Désormais, ma colonne vertébrale, c'est ma région, déclare-t-il. Et aux appels lancés par La République En Marche pour s'unir en vue du premier tour et faire barrage au Rassemblement national de Thierry Mariani, Muselier avance d'abord qu'il est un homme de droite et du centre, mais capable d'additionner, rassembler, travailler avec les meilleurs, ouvrir les bras, c'est ce qu'il dit. Il souhaite donc constituer une liste la plus large possible, sans accord d'appareil avec en filigrane le barrage au RN. Les slogans simplistes, la caricature ou le marchepied pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen ne prendront pas en otage le destin de 5 millions d'habitants, poursuit Renaud Muselier. Avec lui, ils sont désormais 4 dans la course au régional de juin prochain, Jean-Laurent Félizia pour le pôle écologie, Sophie Cluzel pour la majorité présidentielle et Thierry Mariani donc pour le Rassemblement national. Des régionales qui auront lieu en même temps que les départementales, ce n'était plus un secret, mais il l'officialise entre les colonnes du Dauphiné libéré. Jean-Marie Bernard est candidat à sa succession, une nouvelle fois en binôme avec Bernadette Saunemont sur le canton vénois. Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes veut mener les troupes de droite pour que le département reste attractif. Côté opposition, il trouvera Florent Armand qui lui aussi brigue un nouveau mandat au sein de l'hémicycle mais change de binôme. Élu avec Anne Truffem sur la Reine-Montéglin dans le groupe d'opposition Démocrate 05, cette fois il va aux urnes avec Julie Roux, conseillère municipale de Lazère. Quant au collectif Hautes-Alpes solidaires écologiques et citoyennes, il se dévoile à Gap et Briançon pour ses départementales. Composé à 20% de plusieurs membres d'Ambition pour Gap, Briançon citoyenne, Ensemble, Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise ou encore le Parti communiste, ce collectif citoyen rassemble aujourd'hui plus de 500 personnes. Il se met en ordre de marche pour les 4 cantons de Gap. Notez la présence d'Isabelle David et Jean-Denis Rispo pour Gap 1, Nathalie Maillodon et Bertrand Hérisson pour Gap 2, Antoine Gardin Varda Bachio et Alexandra Lanroussi pour Gap 3 et Pimprenel Butzbach et Bernard Derbez pour Gap 4. Dans le même temps, le groupe Briançonnais du collectif propose des candidats sur les cantons 1 et 2 de la deuxième ville des Hautes-Alpes tout en dénonçant la démarche solitaire de toute candidature qui se revendiquerait de gauche sans avoir rejoint le collectif.
Confiné chez soi car la porte d'entrée est trop lourde pour être poussée, situation presque ubuesque.
Et pourtant, c'est un conflit naissant dans les Alpes du Sud. Le bailleur social Unicil a décidé régionalement de changer toutes les portes d'entrée des bâtiments qu'il gère pour les sécuriser. Une action volontaire pour les personnes alertes, mais qui cause des difficultés pour les familles, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Reçue aujourd'hui par la préfète des Hautes-Alpes, l'Association des paralysés de France dans les Alpes du Sud, l'APF, mènera ce conflit sur le bureau de la représentante de l'État. Écoutez Cédric Carotte, directeur de l'APF Alpes du Sud.
On a un bailleur social qui est en train de changer toutes ses portes d'entrée. C'est régional, hein. C'est chouette, on sécurise les portes d'entrée, on met des portes blindées, on met des portes un peu costauds, etc. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, ce même bailleur social qui est très volontaire, hein, quand les personnes alertent, eh ben, on propose aux personnes de sortir qui par la cave, qui par le garage, qui par le local à poubelle, puisqu'elles peuvent pas pousser cette porte-là. On avait des gens qui habitaient dans un logement qui tout allait bien, et aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on les enferme chez elles. C'est juste inadmissible, c'est juste inadmissible. Quand on a pointé ça, nous, pour une de nos adhérentes, dans le bâtiment, on se rend compte qu'il y a la mamie du quatrième étage qui a 80 ans, qui n'arrive pas non plus à pousser cette porte-là et à qui on propose pas de solution. La maman avec trois enfants, qui, quand elle va au marché, elle n'arrive pas à pousser cette porte-là. C'est là où on parle pas que de handicap, mais plutôt de l'usage, de la qualité d'usage. Ils trouvent des solutions ad hoc, mais c'est du bricolage.
Contacter le bailleur social n'a pas encore donné suite à nos demandes. Refuge solidaire à Briançon déménagera dans une structure pérenne. Cette association créée en 2017 face aux drames migratoires dans le nord des Hautes-Alpes tient un centre d'hébergement pour les exilés. Elle leur permet de dormir, manger, se laver, avoir accès aux soins et aux droits. Mise en demeure durant l'été 2020 par la municipalité briançonnaise de quitter les locaux rue Pasteur pour ce printemps, il fallait trouver une solution de repli. Finalement, c'est route de Grenoble que l'avenir de Refuge solidaire pourrait s'écrire. Le compromis de vente d'un bâtiment a été signé pour 700 000 euros. Un projet financé à 80% par deux fondations. Un appel aux dons est ouvert pour les 20% restants.
On parle maintenant des pilotes de demain formés sur avions électriques et ça se passe près de chez nous, à Château-Arnoux-Saint-Aubin.
Depuis lundi dernier, la Fédération française de vol en plein air, par le biais de la société FGS, qu'elle a spécifiquement créée pour mettre en place cette formation, a accueilli 6 pilotes cadets Air France au Centre national de vol à voile de Château-Arnoux-Saint-Aubin. Ce nombre est fortement réduit par rapport à la centaine de jeunes pilotes en 2020, à cause bien sûr de la crise sanitaire. Entre 80 et 90 cadets seront alors formés selon les besoins de la compagnie à horizon 2023-2024 en fonction de la reprise du transport aérien. Une formation unique pour ces pilotes en herbe, car ils auront l'opportunité de s'entraîner à bord du Vélis 128, le premier avion du monde certifié avec une propulsion à l'énergie électrique. Un outil pédagogique adapté à la mue progressive que doit réaliser le monde de l'aéronautique pour participer à la réduction environnementale des activités. Jean-Émile Rouault est le président de la Fédération française de vol en planeur.
C'est une formation essentiellement sur planeur, mais avec un volet avion qui avant se faisait sur un avion thermique et qui, à partir de cette promotion, se fera sur avion électrique. Ils font 3 heures de sensibilisation à l'énergie durable, à la transition énergétique, avec un cours théorique, un cours d'utilisation de l'avion électrique et 3 heures de vol en 4 séances entre des petites navigations et de la maniabilité sur cet avion qui est uniquement propulsé avec des batteries et qui a une autonomie d'1h20, 50 minutes d'utilisation avec 30 minutes de réserve. La transition vers l'énergie toute électrique pour le transport aérien n'est pas pour demain. Par contre, la formation des pilotes aujourd'hui est possible. Pas toute la formation des pilotes, mais le début de formation qui permet de moins émettre de CO2 et puis d'avoir des coûts de formation beaucoup plus bas puisque une recharge d'un avion comme ça pour 50 minutes de vol, c'est à peu près 4 euros.
En reprenant le flambeau formateur de la Direction Générale de l'Aviation Civile en 2000, la Fédération s'est 7 ans plus tard associée à la région PACA, propriétaire des installations de Château-Arnoux-Saint-Dauban, pour faire de la commune basalpine un haut lieu de l'aéronautique français. Notez qu'en plus de la formation des cadets d'Air France, il est également envisagé d'apprendre dans un futur proche aux non-professionnels le plaisir de piloter un avion électrique.
Et on termine avec le spectacle de Gad Elmaleh, à nouveau repoussé sur les planches du Quattro à Gap.
Le nouveau one-man show de l'humoriste était prévu pour le 29 juin, mais face aux incertitudes quant à la situation sanitaire, Sud Concert annonce le report au mardi 9 novembre. Les billets restent valables. 6 ans après, 100 tambours et une tournée internationale avec un spectacle en anglais donné dans plus de 15 pays. Gad Elmaleh, qui vient de fêter ses 50 ans, revient donc avec un 6e spectacle d'ailleurs.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.